franceinter.fr.
Les palaches d'eau de la Lune, Europe aujourd'hui, donc à la une de la science, et c'est une confirmation importante qui vient d'être publiée concernant la petite lune glacée de Jupiter.
La grande prouesse de Galiléo, c'est d'avoir percé une partie des mystères d'Europe, l'une des lunes de Jupiter. Une carapace de glace de 100 km d'épaisseur, quadrillée de craquelures, avec des plaques qui glissent, dérivent les unes par rapport aux autres. Ces icebergs géants flottent en fait sur des océans d'eau salée.
Et enfoui dans les données de la sonde Galiléo, qui date donc de 1997, les scientifiques de la NASA ont trouvé une nouvelle preuve que des geysers de vapeur d'eau s'échappent de la surface du satellite. Et c'est une information importante qui renforce les attentes concernant les missions à venir. On en parle avec notre invité, Axel.
Oui Mathieu, on est avec Gabriel Toby qui se trouve dans les locaux de France Bleu Loire-Océan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur pour le CNRS au laboratoire Planétologie et Géodynamique de Nantes. Alors c'est la troisième fois que des observations différentes suggèrent que des geysers de vapeur s'échappent d'Europe. Est-ce que trois, c'est assez pour en être certain maintenant ?
On peut dire que ça commence à être assez certain. Donc chaque observation individuellement, elles étaient quand même assez toujours à la limite de la détection. Le fait qu'on observe trois fois successivement ce type de panache sur Europe rend la détection de plus en plus certaine. Donc on peut se dire qu'on est quasiment sûr maintenant qu'il y a des éruptions de vapeur d'eau sur Europe.
Alors ce qui est amusant, c'est que cette confirmation, elle était dans les cartons de la NASA depuis 20 ans, un peu plus. Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas vu à l'époque de Galiléo ?
Alors effectivement, c'est basé sur des données qui ont été récoltées par la sonde Galiléo, qui était autour de Jupiter de 97 à un peu près 2003. Et à chaque survol d'Europe, elle a pris des données, et notamment elle a mesuré le champ magnétique. Et c'est à partir de ces données sur le champ magnétique, justement, qu'on a pu déterminer qu'il y avait un océan sous la croûte de glace d'Europe. Donc déjà, ces données magnétiques étaient très importantes de ce point de vue-là. Et il y avait des petites anomalies dans ces données magnétiques que personne n'avait essayé vraiment de regarder. Donc ce qu'ont essayé de faire ces chercheurs américains en réanalysant les données, c'est essayer de comprendre est-ce que ces petites anomalies, on pouvait les interpréter en termes de panache de vapeur d'eau. Et justement, ce qu'ils ont montré, c'est en modélisant ce phénomène-là, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient expliquer une grande partie du signal qui était observé. Donc on peut dire que c'est un résultat qui a été motivé par la détection de panache à partir d'images de télescope Hubble. Mmh. Si on n'avait pas détecté ces images, peut-être que personne n'aurait réinterprété ces données. Mais en réinterprétant les données, ils ont pu confirmer justement l'existence de ces panaches.
Donc il y a eu des images et ensuite modélisation. Hein. Ça a été le processus. Hein.
Alors le processus, c'est quand il y a eu des images, une première image qui a été acquise par le télescope Hubble, c'était en 2013. Et ensuite, il y a une confirmation avec aussi le télescope Hubble, mais une autre technique, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais une autre technique qui a permis également d'observer encore une fois l'existence de panaches au niveau d'une zone particulière sur Europe, plutôt vers l'hémisphère sud. Et ensuite, en réanalysant ces données de champ magnétique, ils ont pu modéliser également l'effet qu'aurait un panache sur ce champ magnétique et montrer que ça pouvait expliquer les données qui avait été acquise par la sonde Galiléo.
Alors vous l'avez dit Gabriel Toby, on savait depuis longtemps déjà qu'il y avait sous la glace un océan d'eau salée. Pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait ces vapeurs d'eau qui s'échappent, ces panaches, est important ?
Alors c'est important déjà d'une part parce que ça nous prouve qu'Europe est active à l'heure actuelle, ce qui n'était pas complètement certaine, même si on avait beaucoup d'images à la surface qui nous montraient des fortes activités, on ne savait pas si à l'heure actuelle on avait des éruptions potentielles. Et le fait qu'on ait des éruptions, ça nous donne une opportunité unique d'aller analyser directement de la matière qui vient de l'intérieur d'Europe. Et c'est grâce à ce type de mesures qu'on pourra vraiment déterminer quelle est la composition de l'océan d'Europe. Pour le moment, on pense juste qu'il y a un océan sous la croûte de glace, on pense qu'il y a du sel, mais on ne sait pas du tout de quoi il est constitué, quel type de molécules, quelle chimie peut se produire à l'intérieur de cet océan. Grâce à ces éruptions, on aura un outil potentiel pour aller étudier directement la composition de l'intérieur d'Europe.
On est sûr que l'eau qui s'échappe est celle qui provient des océans à l'intérieur ?
Alors, elle vient peut-être pas directement de l'océan, mais on pense que c'est quand même probablement connecté. Donc peut-être c'est un peu compliqué parce qu'il y a une couche de glace, donc on ne sait pas exactement quel chemin l'eau a pu prendre à travers la couche de glace. Mais on pense qu'il y a quand même un lien entre ces jets de vapeur et la composition de l'océan qu'on a sous la croûte de glace.
Bah justement, Gabriel Toby, quand vous nous dites qu'il y a un océan sous la croûte de glace d'Europe, ça veut dire quoi exactement ? On a des indications là-dessus sur l'étendue de l'eau, son épaisseur ? Qu'est-ce qu'on en sait exactement ?
Alors, on n'a pas des précisions. On sait, d'après les données du champ magnétique, encore une fois, c'est grâce au champ magnétique, qu'on a une couche d'eau salée, à peu près entre 10 et 40 km sous la croûte de glace. On ne sait pas, donc vous voyez, entre 10 et 40, c'est encore une assez grande incertitude. Donc, on est quasiment certain maintenant qu'il y a une couche d'eau liquide. Par contre, on ne sait pas si elle communique. On ne savait pas jusqu'à maintenant si elle communique avec la surface. Le fait qu'on ait des éruptions, ça nous suggère que c'est quand même. Que potentiellement on a des communications entre cet océan et la surface à l'heure actuelle, ce qui est déjà une très grande avancée. Et par contre, on ne sait pas du tout la composition. Donc le volume, il est estimé à peu près, c'est une épaisseur d'à peu près entre 80 et 100 km d'épaisseur. Vous voyez, c'est un océan très très épais.
Ouais.
Et si on le compare à la Terre, ça fait à peu près 20 fois le volume de l'océan terrestre.
On l'a dit au tout début, cette confirmation est importante pour les missions à venir autour d'Europe. Qu'est-ce qu'elles vont essayer de faire, ces sondes, avec ces vapeurs d'eau? Elles vont les attraper en passant?
Alors, elles vont essayer de les analyser. Donc, il y a des instruments qui sont prévus sur... Donc, il y a deux sondes qui vont aller survoler Europe dans le futur. Donc, il y a une sonde américaine qui s'appelle Europa Clipper, qui est dédiée à l'étude d'Europe. Et puis, il y a une autre sonde européenne qui s'appelle JUICE, donc Jupiter Icy Moon Explorer, qui, elle, va étudier l'ensemble des lunes de Jupiter et le système de Jupiter, et va survoler deux fois Europe. Donc, lors des survols, à bord de ces sondes, il y a plein d'instruments, donc on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ceux qui vont nous donner des informations sur les vapeurs d'eau, ce sont des spectromètres de masse qui nous permettent d'analyser directement la composition des jets qui viennent de l'intérieur. Donc on a aussi d'autres types d'instruments comme des spectromètres UV qui vont donner aussi des informations sur la position de ces panaches et nous permettre de détecter où ils se trouvent exactement avant de planifier des survols précis. Et puis il y a des instruments aussi qui vont nous permettre d'analyser les grains de glace qui peuvent être éjectés justement avec cette vapeur d'eau.
Est-ce que ça veut dire que s'il y a de la vie dans ces eaux, on pourrait en avoir la confirmation assez rapidement alors ?
Disons qu'on aura des indices. Donc, à partir de l'analyse des vapeurs qui viennent de l'intérieur, on pourra voir déjà si on a d'autres molécules un peu plus complexes que juste de la vapeur d'eau. Donc, la vapeur d'eau, c'est quand même très basique comme molécule. Donc, on va pouvoir détecter si potentiellement on a des molécules organiques, donc composées de carbone et d'autres éléments plus ou moins complexes. Par contre, on ne pourra pas détecter directement s'il y a de la vie parce que ça demanderait des analyses qui ne sont pas possibles depuis l'orbite. Mais dans tous les cas, ça va nous donner des nouveaux indices et ça va nous permettre de converger plus ou moins rapidement vers ça va donner de nouveaux arguments pour déterminer si c'est possible ou non d'avoir eu de la vie qui s'est développée à l'intérieur d'Europe.
Il y a une autre lune dans le système solaire qui ressemble à Europe, c'est Encelade autour de Saturne, qui a aussi de la glace et des geysers. Pourquoi les missions se dirigent plus vers Europe que vers Encelade ?
Alors déjà, elles se dirigent vers Europe parce que ça fait déjà, depuis les missions Galiléo qui sont terminées à la fin des années 2000, début des années 2000, qu'il y a des projets pour retourner vers Europe. Donc il a fallu très longtemps avant de convaincre les agences spatiales de retourner vers Europe. Donc finalement, ça s'est fait. Et on a décidé d'aller vers Europe parce que c'était une très forte attente de la communauté scientifique. Encelade, on vient tout juste de découvrir on a découvert un peu plus tard justement l'activité d'Encelade et le fait que Encelade a un fort potentiel. Donc on peut juste espérer qu'il y aura une prochaine vague d'exploration vers Encelade, mais ça ne va pas être encore tout de suite. Il faut pour ça convaincre les agences spatiales et démontrer qu'il y a un intérêt scientifique pour retourner sur ce type d'objet.
Mais justement, vous l'avez dit, les agences spatiales européennes et américaines veulent aller vers Europe. Est-ce qu'il y a une course à Europe ? Est-ce qu'elles se font un petit peu la bourre ? Est-ce qu'elles se tirent la bourre pour arriver les premières ?
Alors, initialement, c'était un projet qui était commun entre les agences, la NASA et l'ESA. Donc, au final, ça se fait de manière un peu dispersée, mais on espère qu'on va reconverger et avoir des synergies, justement, entre les deux missions, à la fois la mission américaine et la mission européenne. Elles arriveront probablement pas exactement au même moment, mais on va avoir des informations complémentaires avec ces deux types de missions.
Merci beaucoup, Gabriel Taubi. En tout cas, si vous repérez des traces de vie sur Europe, vous nous appelez, parce qu'avec Axel, on aimerait bien être à l'antenne ce jour-là, figurez-vous, pour l'annoncer à nos auditeurs. Merci beaucoup.
Il faudra attendre au moins 2030.
Ben, c'est ça le problème, voilà. Et ça, c'est l'incertitude. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aux équipes de France Bleu Loire-Océan. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les lits des chimpanzés plus hygiéniques que ceux des humains, c'est une découverte étonnante qui nous vient d'une équipe de l'Université de Caroline du Nord. Alors que 35% des bactéries présentes dans nos lits proviennent de notre corps, les scientifiques expliquent n'avoir dénombré quasiment aucune bactérie fécale, orale ou épidermique dans les niches de ces grands singes, que l'on retrouve habituellement d'ailleurs dans les arbres de Tanzanie. Pour l'auteur principal de l'étude, la découverte permet de remettre en question le rapport de l'homme avec son environnement et son hygiène. Toujours dans le domaine de l'environnement, les traînées de condensation blanche laissées par les avions dans le ciel accentuent le réchauffement climatique davantage que le carburant brûlé pour faire tourner les réacteurs. Le physicien Bernd Kircher, auteur de cette synthèse parue dans Nature, explique que ces traînées, qui sont de simples condensations de l'eau en altitude au passage de l'avion, entraînent la formation de cirrus, des nuages qui accentuent les températures de la surface planétaire. Et puis pour finir, un robot jogger plutôt habile, la société américaine Boston Dynamics a publié jeudi dernier une nouvelle vidéo de son robot humanoïde Atlas, toujours plus surprenant. On peut y voir l'athlète de ferraille faire son footing dans les bois et même sauter un obstacle les pieds joints sans jamais perdre l'équilibre. Vous pouvez retrouver la vidéo vue près de 6 millions de fois depuis sa publication sur la page Facebook de la Tête au Carré.